Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Bienvenue à toutes et à tous. Lorsque les valeurs marocaines profondes sont mises au service du développement et de l'innovation, ça donne ma femme d'aujourd'hui. On y va pour les détails.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Bouchara Rahmouni, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Chbark lalla Bouchara.
Je te remercie, Yasmina, de m'inviter, d'être la femme d'aujourd'hui. Et pour répondre à ta question, je vais très bien. Alhamdoulilah.
Alhamdoulilah, lalla Bouchara. Alors, tbarkallah, 25 ans de carrière, c'est ça? 27 ans de carrière et une carrière extrêmement riche. Lalla Bouchara Rahmouni, toi tu es aujourd'hui directrice du Social Innovation Lab et du Cooperative Lab à l'UM6P.
Oui, absolument.
Et tu es également professeure titulaire à l'Africa Business School de l'Université Mohamed VI Polytechnique.
Tout à fait.
Voilà, ça c'est ce que tu es aujourd'hui. Mais ces 27
Absolument.
Ans de carrière, c'est une carrière en fait dans l'engagement géopolitique, dans la lutte contre la criminalité et dans la lutte antiterroriste. Comment la femme que tu es est rentrée dans ce domaine ?
Alors écoute, Yasmina, il faut dire que cet aspect criminalité et terrorisme, il faut dire que c'est une partie, il faut dire, de ma vie professionnelle, parce que je peux dire que j'ai eu des carrières dans la carrière. Donc à chaque moment, il y a eu un événement qui faisait que il était temps d'opérer une bifurcation dans ma carrière. Alors moi, pendant 10 années, j'étais impliquée j'ai un doctorat en économie internationale, stratégie d'internationalisation et de globalisation. Et donc, je m'étais, pendant 10 ans, je m'étais impliquée dans ces aspects-là, vous savez, internationalisation de l'entreprise, globalisation, mondialisation. Et comme tu dois forcément le savoir, quand on est dans ce domaine, on ne peut exceller dans ce domaine que quand on arrive à décrypter, décoder la grille géopolitique, géoéconomique surtout. Je vais dire que c'est une peut-être de mes qualités, c'est la curiosité intellectuelle, et que j'ai toujours, c'est-à-dire quand j'intègre un domaine, il faut que cette intégration soit en quelque sorte systémique, ne soit pas
tout comprendre en fait.
Donc, voilà, absolument, pour bien comprendre. Et comme je le dis toujours, un de mes principes de vie et aussi au niveau professionnel, c'est d'apprendre à comprendre. C'est très important. Et donc apprendre à comprendre, quel que soit le domaine dans lequel on s'investit. Et donc, étant dans l'internationalisation, cette donne géopolitique, géoéconomique était d'une très 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 grande importance, était même pertinente, était le point de départ de toute analyse, en termes d'internationalisation, mondialisation. Donc, en 2008, c'est la crise des subprimes. Et là, je m'investis. Je vais vous dire, je vais vous raconter, c'est une anecdote. Des fois, il y a des choses qui arrivent par hasard. Donc, j'organise un événement sur quelle géoéconomie à la sortie de crise. Et une des panélistes me fait faux bond.
Alors, Lalla Bouchara, pardon, ça c'était au Maroc.
Ça c'était au Maroc, absolument.
Exactement.
Je parle du Maroc. Donc, juste pour vous dire comment je vais commencer à m'impliquer. Donc, elle me fait faux bond, 24 heures avant. Donc, une personne qui manque dans un panel qui était pratiquement à 100% masculin. Donc, et puis, la géoéconomie, il faut dire que j'ai toujours tenu à ce que cette parité genre soit transverse dans tout ce que je fais. Donc, du coup, je me dis, mais comment je vais faire? Et là, le comité scientifique me dit, mais écoute, Bouchara, pourquoi tu n'interviens pas toi? Je leur leur ai dit, mais écoutez, là, on parle de géoéconomie, on parle de crise de subprime. C'est vrai, bon, je connais le domaine, je connais la géoéconomie, mais là, c'est une, j'avais, je ne vais pas citer de nom, c'est une dame de renom que j'ai invitée. Donc, et à ce moment-là, moi, je travaillais sur les énergies renouvelables. Mmh. On commençait à parler de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne, etc. Donc, et puis, je leur dis, écoutez, moi, la seule chose que, pour l'instant, c'est-à-dire que je pourrais aborder, dont je pourrais parler, eh ben, c'est la compétition dans le domaine des énergies renouvelables entre l'Union européenne, la Chine et les États-Unis d'Amérique. Et puis, effectivement, donc, je prépare mon intervention, je le fais. On me propose, suite à cette intervention, de travailler sur sur la géopolitique, sur les 100 mots de la Méditerranée. Donc voilà, parce que c'était l'aspect géopolitique, etc. Et ça m'a intéressé. Donc c'est le que sais-je qui est devenu géopolitique de la Méditerranée. Et c'est là où est née cette histoire avec le monde de la géopolitique, géoéconomie. Alors après avoir travaillé dans ce domaine, l'occasion se présente pour faire partie des experts qui ont travaillé sur les rapports donc pour établir le plan de prévention de l'extrémisme violent, du terrorisme. Et crimes organisés au Sahel et en Afrique.
Alors, c'est quoi le lien entre la première carrière et cette carrière ?
Alors justement,
parce que justement, dis, j'ai eu des carrières dans la carrière. C'est quoi
le... Absolument. Ouais. Alors, le lien, c'est que à partir de ce moment-là, de cette intervention sur les énergies, la compétition dans le domaine des énergies renouvelables entre, il faut dire, trois grands acteurs mondiaux. Il faut dire que et j'apprécie Esmina quand tu dis il faut quand on parle de soi il faut parler au-delà de toute pudeur.
Oui, oui.
J'aime beaucoup parce que des fois c'est ce qui nous freine quand on veut parler de soi.
Exact.
C'était une analyse très pertinente, factuelle, datée, chiffrée et qui montrait effectivement jusqu'où on en était dans cette il faut dire compétition dans les énergies renouvelables, bien sûr avec la donne géopolitique. Et donc c'est à ce moment-là que m'a été ouverte cette porte pour commencer à m'impliquer dans la géopolitique et dans la géoéconomie à travers des études à faire, à travers des séjours dans des think tanks, etc. C'est-à-dire quand je dis j'ai fait partie des experts qui ont travaillé sur les rapports, établi les rapports sur lesquels va être fondé le plan de prévention de l'extrémisme violent, terrorisme et crimes organisés, justement c'était après 4 ans. D'ailleurs, c'est-à-dire que même quand j'étais impliquée dans cet aspect de prévention, extrémisme violent, c'était effectivement, ils avaient besoin de ce profil qui avait en même temps cette maîtrise du monde du business, de l'économie, mais qui en même temps avait cette maîtrise de la géoéconomie, de la géopolitique. Mmh. Et donc, j'ai eu la chance vraiment d'avoir côtoyé des sommités dans ce domaine, d'avoir appris avec des sommités dans ce domaine. Et je peux vous dire que ce n'était pas non plus facile parce que c'était des nuits blanches, c'était des vacances qui étaient sacrifiées. C'était aussi, il faut dire, 20 ans dans 4 ans. Parce que, et c'est ça, c'est cet acharnement qu'on a des fois quand il y a la passion. Et quand, effectivement, et je voudrais insister sur ça, et quand il y a un lien logique entre les carrières dans la carrière.
Absolument.
On va pas juste parce que c'est un effet de mode. C'est très très important à ce que ça soit une tendance lourde. Et moi j'ai vécu cette tendance lourde en 4 ans. Voilà.
Alors donc, j'ai tellement de questions, Lalla Bouchara, par rapport à ça en particulier. Alors je vais poser toutes ces questions là. Quand tu dis j'ai côtoyé des sommités, mais pour faire des rapports, tu as aussi côtoyé des terroristes. C'est une réalité.
Il faut dire parce qu'on devait se rendre dans des pays qui connaissaient, c'est-à-dire à travers l'Afrique, notamment au niveau du Sahel. Et donc c'est écouter des gens qui avaient, c'est-à-dire on était même avec des personnes qui avaient une grande propension ou qui étaient ou qui ne l'étaient plus, etc. Ah. Donc c'est-à-dire que toutes ces rencontres c'était des rencontres Chatham House. Donc sous la règle Chatham House, donc c'était souvent des closed door meetings, ce ce qui permettait à ces gens de s'exprimer librement.
Librement.
Voilà, et puis voilà, donc, et ce qui nous permettait à nous de bien comprendre, de bien fonder de ces causes ou des racines qui poussent ces jeunes, ces hommes à aller arracher la mort à sa temporalité.
Mmh. Et il y avait des femmes aussi ?
Ben, il faut dire, des femmes, j'en ai pas beaucoup vu. Mmh. Parce que je crois la tendance aussi des femmes, ce n'est qu'après qu'on a commencé à voir ces femmes qui commençaient vraiment à jouer un rôle clé. Ah. Les femmes, elles étaient là, mais elles étaient beaucoup plus des victimes de cette mouvance plutôt qu'actrices de cette mouvance.
Mmh. Alors, en parlant de justement actrices, moi, est-ce que tu as été actrice de ton mouvement de carrière ? Ou bien, parce qu'à un moment, tu as dit, des opportunités, donc des événements faisaient que je basculais d'une chose à l'autre. Est-ce que tu provoquais les événements ou ça venait seul ? Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, est-ce que je suis actrice de ma carrière ? Ou bien, j'ai suivi, I trusted the process. J'ai suivi un chemin qui était tracé pour moi.
Ben, j'ai suivi un chemin qui était tracé pour moi. Trust the process, as you mentioned. C'est-à-dire que... mais j'étais actrice de ma carrière. C'était quand l'occasion m'était donnée, l'opportunité m'était donnée, je ne la ratais pas. Et je travaillais de façon à ce que ça soit une opportunité, pas une occasion ratée.
Mmh. Comment savoir que c'est une opportunité ?
Ben écoutez, c'est-à-dire que toute, il faut dire, occasion qui se présente, c'est une opportunité. C'est-à-dire dans le sens où je dois faire partie d'un steering committee, d'un advisory board. Je vais rédiger un rapport. Je suis impliquée dans une équipe. Il faut que je joue mon rôle convenablement, correctement, et il faut aussi que je représente dignement mon pays. Et aussi, ça me rappelle un petit peu, on était d'ailleurs, tu étais là, Yasmina, quand certaines femmes ont invoqué le syndrome de l'imposteur.
Oui, d'accord, absolument. Alors, juste voilà, pour mettre notre communauté dans le pour qu'elle puisse comprendre, on s'est retrouvés dernièrement dans un événement autour de la femme et on a beaucoup discuté justement de comment passer à l'action, comment avoir confiance en soi. Voilà, c'est là où on s'est rencontrés, là, à la Bouchara.
Absolument, absolument. Donc, c'est-à-dire, c'est ça, c'est-à-dire, il ne faut pas se mettre dans la toge ou dans l'avis de l'imposteur ou de s'imaginer qu'on n'est pas imposteur pour la simple et unique raison, quand on a très bien préparé ses dossiers, quand on a tout fait pour évoluer. Vous savez, on n'a jamais fini
d'apprendre.
On ne finit jamais d'apprendre. Mmh. Ben voilà, d'apprendre. Donc, et même dans notre religion, donc c'est quelque chose. Il faut que ça soit une règle ou une hygiène de vie. C'est que tous les jours, je vais apprendre une nouvelle notion, un nouveau concept, et puis un nouvel outil aussi. Pourquoi pas en une journée, mais toujours donc un nouvel outil et updater ses connaissances. Et je vais vous donner peut-être un autre secret. Vous savez, parce que souvent, quand je suis dans des... Je viens de le dire, ça peut être des steering committees, des advisory boards, des comités scientifiques, ça peut être une équipe d'experts. On est une équipe internationale. Vous savez, souvent... Bon, quand il y a cette rencontre entre le Nord et le Sud, et il faut être décomplexé. Mais bien sûr, je le dis et je le répète, c'est-à-dire à condition d'avoir préparé de façon approfondie ces dossiers. Et quand je me mets face à ces gens, quand je suis autour d'une table, dans un steering committee, advisory board, comité d'experts, tu sais, Yasmina, autour de la table, c'est souvent des sommités. C'est souvent la rencontre entre ce Nord et ce Sud. Et moi, j'y vais en tant que femme africaine du Sud, sans aucun complexe. Et je me dis, j'ai un secret, quand je suis face à ces gens, je rentre, vous savez, il faut se motiver. Quand vous avez un coach, il motive ses équipes. Ben moi, je suis mon propre coach. Et je me dis, Bouchra, tu viens, ne l'oublie jamais. Tu viens d'une civilisation millénaire. Tu viens d'un pays où qui a donné naissance à la première université dans le monde, et c'est une femme qui a lancé cette université. Tu viens du pays de Seyd al-Hurra, de Kaina. Donc, du coup, c'est quelque chose, je ne sais pas, peut-être ça dépend, mais il faut y croire. Mais moi, ça me donne ça me met dans ce mood de gagnante,
ouais,
dans ce mood dans ce mood qui dit que je n'ai rien à prouver à personne, à part que je représente un pays, je représente une nation qui a une très grande histoire, qui vient d'un royaume qui a ses valeurs, qui a ses principes, et il faut vraiment que tu sois digne d'être issu de ce royaume.
Alors, Lalla Bouchra, tu as dit justement tout ça, c'était beaucoup de nuits blanches, beaucoup de travail, beaucoup de vacances sacrifiées. Je me permets de te poser la question, tu as une petite famille ?
Oui, absolument. J'ai deux enfants, une fille de 20 ans et un garçon de 16 ans.
Tabarkallah. Alors justement, quand on a une carrière pareille, et ça c'est une question bien sûr qu'on pose jamais aux hommes, bien sûr, jamais, mais on la pose toujours aux femmes. Quand on a justement une carrière aussi importante, aussi prenante, et on sait très bien combien de femmes justement abandonnent leur carrière et abandonnent leurs ambitions pour pouvoir donner du temps à la famille, tu leur dirais quoi ? Est-ce que toi, tu as eu une façon de faire, une façon d'accepter, une façon différente de voir les choses ?
Alors, ma façon, moi, c'est-à-dire, c'était de me dire que c'est plus la qualité du temps que je passe avec mes enfants que la quantité. Et la communication, c'est très important. C'est très, très important. Alors, juste pour te dire, Esmina, ma fille, peut-être elle devait avoir 2 ans, 3 ans, elle commençait à parler. Et chaque jour, je dis, ben viens, on va se raconter notre journée, on va se raconter tous nos secrets de la journée. Et bon, moi, je commençais à dire, raconter peut-être des jeux, ma journée, et peut-être des secrets, d'inventer des fois des secrets, elle aussi. Et jusqu'à présent, elle peut être à l'autre bout du monde, je peux être à l'autre bout du monde. Son adolescence, son enfance, elle m'appelait pour me raconter tout ce qu'elle a fait pendant la journée. Alhamdoulilah, c'est une belle relation solide. La même chose avec mon fils, mais c'était beaucoup plus la qualité du temps. C'est-à-dire quand je passais 2 heures ou 3 heures avec mes enfants, ben c'était 2 heures ou 3 heures avec mes enfants.
Pleinement.
Et puis, je me rendais pleinement. Et puis un jour, bon, ma fille était primaire, ils avaient un cours d'informatique. Elle vient toute contente et toute heureuse. Et puis, elle me dit, maman, tu sais, aujourd'hui, on a commencé à faire la recherche sur Google. Et tu sais, maman, j'ai tapé ton nom. Et tu sais, j'étais heureuse de voir, et puis j'ai dû montrer à mes copines et j'étais contente. Donc moi, je me dis, c'est la qualité du temps, c'est la communication, et faire en sorte que les enfants sachent toujours ce que fait leur maman pour qu'ils soient fiers. Pour moi, c'est mon secret. Et je me dis, chaque femme trouvera son secret et sa façon de faire. Mais on peut le faire et on arrivera à le faire.
Absolument, chacune trouve son secret, mais encore faut-il qu'elle se donne le droit de le trouver en fait.
Et c'est, absolument, voilà. Absolument.
Et c'est à travers ces discussions que finalement on montre que la femme marocaine, la femme africaine a toutes ses compétences, toute cette fierté ancestrale en elle qui peut l'amener à exister de la manière dont elle le souhaite. Lalla Bouchra, tout ça c'est carrière, c'est ce que tu es aujourd'hui, mais tu viens d'où ? Chkoun li zara fik had la graine de justement du sérieux, de l'engagement, de la fierté et du savoir.
Alors, je peux dire que mes grands-parents jouaient un grand rôle. Donc, avant d'arriver à mes parents. Parce que moi j'ai grandi dans une famille. D'abord, qui a ce sens de la famille. Moi, je suis née, j'ai grandi à Rabat. Donc, juste pour expliquer les deux, mon père est de Ouazen, ma mère est de Rabat. Justement, pourquoi je parle de mes grands-parents ? Parce que je partais pendant les vacances voir ma grand-mère à Ouazen. Et vous savez, je dormais sur les légendes qu'elle me racontait.
Ouais.
Et dans chaque légende, il y avait une légende, ça pouvait être une légende,
l'hjayat.
Et voilà, et c'était des hjayat qui étaient pleines de sens. Et des hjayat qui montraient toujours que quand on est honnête, on est intègre dans tout ce qu'on fait, dans sa vie personnelle, avec ses amis, dans sa vie professionnelle, ça finit toujours par payer. Et j'avais mon grand-père aussi qui était aussi dans les... c'était beaucoup lui... Les principes, vous savez, Amtel, je vous donne juste un exemple. Tigles, et puis quand on discutait, il me disait, Choufa Binti, la tigre Amtel, peut-être. Il me dit, Wahd Nard, Jmal Mal, ou Jmal Sharaf, ou Jmal Jah. المال قال لهم انا من جمعوا دوزوا ويدو باسي لو طون كي زون باسي انصاب غيمشيو بحالهم. المال قال لهم الا جبرتوني الا بغيتوني غتلقاوني في خزائن في الخزائن وفي في الابناك وفي هذا. الجا قال لهم انا غتلقاوني في بلاطات الامراء وفي القصور الملوك. قال دار الشرف قال لهم انا الا مشيت ما كنرجعش. C'est quelque chose qui m'a passionné. Vous savez, c'est des choses sur lesquelles on grandit sur ça. J'ai grandi sur Dine Mohamela, j'ai grandi sur des notions dans ce... Et puis aussi, donc, j'avais ma grand-mère maternelle, elle qui était plus dans le Seif Douyezel, dans des choses. Et c'est toujours cette... et c'était des choses qui étaient appliquées même dans leur vie, dans la vie de tous les jours. Dans le, voilà, c'est-à-dire que quand on préparait à manger, il fallait goûter le voisin qui n'avait pas. Et puis moi, j'aimais beaucoup, il faut dire, l'architecture ou l'urbanisme ou l'urbanité de l'époque. Parce qu'on pouvait avoir une grande maison à côté d'une petite maison de gens qui étaient modestes. Et puis, il m'a expliqué une fois, mon grand-père et ma grand-mère m'avaient expliqué que pourquoi est-ce qu'elle doit toujours être maquette-biche pour que le voisin ne voit pas ce qu'on a acheté. Voilà, donc pour que... Et quand on prépare quelque chose, on va avoir des effluves de bons effluves, donc il fallait automatiquement goûter le voisin, etc. Donc c'est cette notion-là. Et puis c'est pour ça que je dis mes grands-parents, parce qu'avec mes parents, j'ai grandi dans un quartier moderne. Donc c'était les voisins, chacun chez lui, avec bien sûr les règles de bienséance, etc. Mais avec mes grands-parents, j'ai appris, que ça soit Mdina Darbat ou Mdina de voisins, j'ai appris cette solidarité
marocaine,
ce respect
en fait.
Du voisin. Et c'est, voilà, marocaine. Et cette bienveillance marocaine. Et cette, vous savez, quand moi je me rappelle à l'époque, ma grand-mère pouvait déposer, Mdina Darbat, Mme Smito, pouvait déposer ce qu'on appelait le slad ou le khobs lbab. Et un des fils des voisins allait la prendre à Dihal Farran, ou radis, vous voyez, et n'importe qui pouvait aller la récupérer. Donc, rien pour vous dire, c'est toute une. C'est cette solidarité. Et c'est pour ça que je dis, moi, mais heureusement qu'il y avait mes grands-parents, qu'ils étaient toujours de ce monde, et que je passais beaucoup de temps chez eux, avec eux, pour vraiment que je puisse, effectivement, vivre, non pas connaître, mais vivre pleinement. Ben, la solidarité marocaine, l'entraide marocaine et la bienveillance marocaine.
C'est vrai qu'avec cette génération de personnes, c'était en fait la pratique des valeurs.
Absolument. C'est
les exactement. Les valeurs pratiques. Ouais. Exactement. Qu'on perd, en fait, on perd et les valeurs et leurs pratiques. Parce que comme Absolument. Tu l'as très bien dit, c'est la vie et tes valeurs. Il ne suffisait pas de dire des mots, mais ces mots étaient incarnés au quotidien. Alors, Lella Bouchara Rahmouni, aujourd'hui, Head of Social Innovation Lab and Coop Labs à l'UM6P, ça veut dire quoi entre tout ce background et ce que tu fais aujourd'hui?
C'est la mise en pratique de toutes ces valeurs et marocaines, voilà, dont on vient de parler, et aussi des valeurs de l'Université Mohamed VI Polytechnique. Donc c'est une université, comme le répète souvent notre président, c'est une université pour les Marocains, avec les Marocains, pour les Africains, avec les Africains. Donc voilà. Et effectivement, le Social Innovation Lab est là pour mettre à profit l'ensemble des expertises de cette université de façon à profiter aux communautés et aux territoires marocains et africains.
Lella Bouchra Rahmouni, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Ben écoutez, je te remercie Yasmina, et je finirai par dire ensemble pour le rayonnement de la femme, où qu'elle soit.
L'alerte éclaire la bouche. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien, et à tout moment, à la demande et en avant-première, sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.